L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de RDGP, le podcast sérieux qui vous emmène au cœur des enjeux des droits numériques, des libertés individuelles et de la vie privée. Bonjour Benjamin.
Bonjour Aéris. Alors aujourd'hui, on va vous raconter une petite histoire. Une petite histoire autrichienne, l'histoire de Max Schrems au pays de Facebook. Alors, notre histoire commence en 2012, et donc c'est l'histoire du petit Max Schrems que Aéris va nous raconter ce soir.
Donc Max Schrems est un petit étudiant à l'époque qui a 25 ans, qui milite pas mal dans le milieu de la vie privée, qui est aussi actif, pas sur le RGPD, puisque du coup 2012 il n'y avait pas encore le RGPD, mais il y avait les directives e-privacy, il y avait les directives 95... qui existaient, qui sont des textes à peu près équivalents...
Dont on avait parlé dans le tout premier épisode de RDGP.
C'est ça, sur l'historique, en fait, c'est vraiment des textes qui sont quasiment équivalents au RGPD, et pas RDGP. Et du coup, bah, lui, ce qu'il voulait, c'était surtout la publicité ciblée. Il avait déjà plusieurs plaintes contre Facebook à l'époque, pour des problèmes de publicité ciblée où Facebook est trop intrusif sur les données des gens.
Je vois. En fait, il en avait marre que tout le monde ait à subir les publicités ultra ciblées de Facebook. Et donc, il installait un bloqueur de pub et c'est la fin de notre histoire.
Ah bah, si c'était ça, ça aurait été facile pour eux, mais non. Malheureusement, non. Il s'est un peu plus accroché que ça. Et donc, il a essayé d'aller avec plusieurs plaintes devant les autorités de protection des données autrichiennes. Et au bout d'un moment, en fait, il s'est rendu compte qu'il avait une arme atomique dans les mains. Puisque Facebook est bien entendu américain, donc les données partaient aux États-Unis. Ces données à lui partaient aux États-Unis. Donc il avait bien effectivement une copie, hein, Facebook lui avait livré une palette de documents quand il avait demandé l'intégralité de ses données. Ça lui arrivait en carton entier tellement Facebook avait de données sur lui. Et il s'est rendu compte que tout ça partait aux États-Unis. Et c'est là, en fait, la loi européenne avait été... Il y avait un traité d'adéquation entre l'Europe et les États-Unis qui s'appelle le Safe Harbor, qui est un accord qui a été négocié entre les États-Unis et l'Europe, et qui dit que les États-Unis sont un pays compatible avec le RGPD.
D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, on a le RGPD qui, au début de notre histoire, n'existait pas encore, mais existait quand même sous la forme de la directive 95, donc l'ancêtre du RGPD. Hein, c'est ce qu'on avait vu à l'épisode 1. En gros, ça voulait dire que chaque pays devait appliquer à sa sauce, mais à l'arrivée, ça revenait au même. Lui, il en a marre de la pub Facebook, donc il se dit « je ne vais pas mettre de bloqueur de pub, ça serait trop facile, et puis l'épisode durerait 3 minutes ». Du coup, je vais m'attaquer au problème à la source. Mes données partent aux États-Unis, sauf que pas de peau. Il se trouve qu'il y a un accord transatlantique entre l'Europe et les États-Unis qui s'appelle Safe Harbor, qui dit que il n'y a pas de problème, qu'on peut tout à fait héberger ces données de citoyens européens aux États-Unis. Et du coup, il a perdu. Et là, l'histoire s'arrête vraiment.
Eh ben non, parce que du coup, il y a un article, un décret américain, qui est le FISA 702, qui est arrivé suite aux attentats du 11 septembre, où les États-Unis ont eu un peu les mêmes réactions que ce que nous, on a quand on a des attentats sur notre sol, décident de faire des lois scélérates de surveillance.
Lois scélérates comme t'y vas.
Bah ouais, on appelle un chat un chat. Hein. Et en fait, le FISA 702 dit qu'en particulier, les Européens, enfin tous les non-Américains, n'ont quasiment aucun droit, ou n'ont aucun droit tout court, et le gouvernement américain est en droit de demander à n'importe quelle entreprise américaine toutes les données qu'ils ont sur une personne non-américaine, dans des buts de surveillance, protection, etc., pour se défendre contre les attentats.
Oui, donc, donc en fait, il est en train de chercher, là. Il cherche comment interdire la pub Facebook. Il voit qu'il n'y arrive pas. Il se dit, mes données sont parties aux États-Unis, c'est sûrement pas normal. Manque de peau, il y a le Safe Harbor qui dit, si, c'est tout à fait normal. Il continue à fouiller. Il tombe donc sur le FISA 702 qui date de...
C'était 2008.
2008, qui, suite aux attentats du 11 septembre, permet aux États-Unis de demander n'importe quelle donnée d'un citoyen non américain qui serait hébergé par une entreprise américaine.
Voilà.
Mais bon, comme il y a le Safe Harbor qui a validé qu'on avait le droit, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Et du coup, eh ben, il a perdu et notre histoire s'arrête là.
Eh ben non, parce que bah, c'est ce que lui a dit certaines APD, hein, les autorités de protection de données ou Facebook ont dit, mais non, il y a le safe harbor, donc il n'y a pas de problème en fait, la Commission européenne, parce que c'est la Commission européenne hein, qui signe ces accords d'adéquation avec le gouvernement américain de l'autre côté, et donc tout le monde dit, bah non, en fait, il y a ce truc-là, il y a ce safe harbor qui existe, donc bah, ce que tu dis, c'est n'importe quoi.
Ok, donc c'est n'importe quoi.
Eh ben, Max Schrem, lui, il trouve que c'est pas n'importe quoi, et donc il fait remonter l'information en disant, bah, j'ai un problème jusqu'à la CGE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, qui est la plus haute juridiction européenne de notre côté, hein, et qui, en lui posant la question, moi, bonjour la CGE, en fait, il y a tout le monde qui me dit que je suis un con, que j'ai pas raison, et donc bah, y a le Safe Harbor, il y a FISA 702, il y a le RGPD ou e-privacy ou directive 95 à l'époque, qui dit que c'est pas possible d'avoir ce droit côté constitution américaine de tout pouvoir sur les données européennes. Et donc du coup, bah, c'est pas légal.
Donc lui, ce qu'il dit, c'est que le FISA 702, donc loi américaine qui permet aux entreprises, enfin, qui permet à l'État américain de demander à une entreprise américaine toute donnée sur un citoyen européen, entre autres, enfin non américain. Lui, ce qu'il dit, c'est que ce FISA 702 n'est pas compatible avec le RGPD ou son ancêtre, voilà. La directive 95. Et donc, il demande à la CGUE, parce qu'évidemment, les APD et Facebook disent qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a le Safe Harbor qui dit que c'est bon. Et donc, il demande à la CGUE qui lui dit que c'est bon. Et là, l'histoire s'arrête.
Eh ben non, toujours pas, parce que la CGUE lui dit...
Que de rebondissements cette semaine.
On est en 2015, hein, donc il a fallu déjà 3 ans pour arriver là. Et la CGUE dit, bah, effectivement, le FISA 702 n'est pas compatible avec la législation européenne. Donc la CGUE lui dit, bah, effectivement... Il y a un problème avec FISA 702, cette loi n'est pas compatible avec le règlement européen, et donc le Safe Harbor n'est pas légal, et n'existe pas depuis qu'il a été signé.
Donc le Safe Harbor est invalidé à la date où la CGUE le dit.
Voilà, même avant, puisque...
C'est rétroactif.
En théorie, c'est rétroactif. Alors en vrai, ça n'a pas été appliqué, hein, bien entendu, mais en vrai, c'est rétroactif, c'est-à-dire que cet accord d'adéquation n'a réellement pas existé au sens juridique du terme. Alors après, que ce soit rétroactif ou pas, pas vraiment changé grand-chose.
Parce qu'on ne peut pas revenir dans le temps, de toute façon...
Voilà, donc ça changeait pas grand-chose en vrai, mais il a réussi hein, à du coup annuler l'accord d'adéquation Europe-États-Unis. Et le côté marrant, c'est que du coup, là, il n'a pas non seulement annulé l'accord d'adéquation, mais il a fait reconnaître par la CGUE que FISA 702 n'était pas compatible avec la législation américaine et la législation européenne. Et donc du coup, il n'y avait aucun autre accord d'adéquation de possible, puisque le FISA 702... existait toujours, en fait, et qu'il avait, exhibé un contre-exemple, en fait, qui faisait que bah, les accords d'adéquation Europe-États-Unis n'étaient pas possibles.
Donc, en fait, si je résume, on a Max Schrems, donc citoyen autrichien d'une 20aine d'années, qui en a marre de voir de la pub sur Facebook, qui se dit « je vais mettre fin à cette situation-là », qui commence à fouiller, qui se rend compte que ces données partent aux États-Unis dans le cadre du Safe Harbor, mais que le Safe Harbor, accord transatlantique, est illégal à cause de la directive américaine FISA 702. Il fait annuler le Safe Harbor de manière même rétroactive, ce qui fait qu'on ne peut plus héberger de données de citoyens européens aux États-Unis.
Voilà.
Fallait pas le faire chier.
Clairement pas, ouais. Et donc on s'est retrouvé à la sortie de là, en fait, où bah, le tout usage de technologie américaine qui allait traiter des données à caractère personnel était illégal en Europe.
Et donc, eh ben, c'est depuis cette date-là qu'on n'utilise plus de services américains en Europe.
Ah oui, bah, si seulement ça avait été le cas. Bien entendu, bah, Facebook, les APD, même toutes les autres entreprises ont dit « mais c'est quoi ce bordel, en fait ? C'est pas possible, c'est juste, ils se réveillent dans un cauchemar, en fait ». Et donc, il y a un espèce de déni qui se met en place. Et la Commission européenne, en particulier, reprend le flambeau en se disant « Bon, bah, le Safe Harbor, OK, il a été invalidé, bah, on va en refaire un. » Donc, ils reprennent le texte, quasiment l'identique. Ils changent juste 2, 3 mots, réordonnent 2 paragraphes. Ça donne le Privacy Shield. Et donc, ils le republient en disant « Bah voilà, il y a un accord d'adéquation, donc vous pouvez retransmettre à nouveau vos données entre les Europes et les États-Unis. »
Donc... comme le Safe Harbor a été invalidé par la CGUE à cause du petit Max Schrems qu'il ne fallait pas emmerder, et ben tout le monde se dit « c'est pas grave, on va le réemballer, on appelle ça Privacy Shield ». Le Privacy Shield, en gros, il dit que des citoyens européens peuvent stocker leurs données sur des serveurs d'entreprises américaines. Max Schrems, du coup, il est bien dégoûté et il s'est mis à planter des poireaux. Et depuis, tout va bien.
Eh ben non, parce que du coup, la CGE lui avait bien dit que FISA 702 était incompatible avec tout accord d'adéquation. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, c'est qu'il se retrouve avec un accord d'adéquation qu'il pense tout aussi illégal. Et donc, il retourne devant la CGE. Et ça donne forcément l'arrêt Schrems 2 en 2020. Qui dit que le Privacy Shield, c'est un copier-coller du Safe Harbor, donc vous allez arrêter vos blagues. On annule ça, comme d'habitude, rétroactivement. Hein, donc il n'y a toujours pas eu d'accord d'adéquation depuis 2008 et l'arrivée de FISA 702. Et puis Max Schrems gagne une deuxième fois avec l'arrêt Schrems 2, qui dit exactement la même chose. Et on est en 2020. Et bien entendu, ça ne va pas s'arrêter là.
Alors attends, parce que donc, quand on parle de l'arrêt Schrems 1 et de l'arrêt Schrems 2, en fait, c'est la même chose, c'est juste que ça s'est passé à quelques années d'écart, mais concrètement, c'est les mêmes mécanismes, c'est toujours un citoyen, c'est un citoyen en
oui,
fait,
oui, hein, c'est, un citoyen, hein.
C'est pas un élu, c'est juste un citoyen. C'est un citoyen qui avait des petites connaissances juridiques, a priori.
Il est quand même avocat, hein,
bon. Mais quand il a commencé, il n'était même pas encore avocat.
Il devait être juriste, il devait sortir d'école, il avait 25 ans. Hein.
Donc c'est un citoyen lambda qui s'est dit non, ça c'est pas possible, il y a un problème d'adéquation entre les accords entre l'Europe et les États-Unis et la réglementation américaine. Une première fois, Schrems 1, il gagne. Une deuxième fois, Schrems 2, il regagne. Et donc là... c'est fini du coup, c'est game over.
Alors c'est pas game over, parce que forcément que ça s'est pas bien passé non plus. La Commission européenne a pas l'air d'avoir compris le message, la CGE a été très claire dans son arrêt Schrems 2, parce que la CGE commence aussi à en avoir marre, hein, donc il a écrit clairement dans son arrêt Schrems 2 en disant « si la Commission européenne nous refait le coup, ça va barder », et forcément la Commission européenne a
arrêté.
Refait le coup.
Ah mince.
Et ouais, parce que du coup, ils ont repris le même texte.
C'est un jour sans fin, en fait.
Ah, mais c'est exactement ça. En fait, ils ont repris le texte. Donc, entre 2020 et 2023, il y a eu un espèce de no man's land. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'accord d'adéquation qui existait, mais les autorités de protection des données n'ont pas voulu bouger parce que c'était trop l'enfer. Donc, la Commission européenne a préparé un texte pendant 3 ans, qui en gros est encore un copier-coller du Safe Harbor et du Privacy Shield.
Et qui s'appelle ?
Qui s'appelle le DPF, le Data Privacy Framework. Ils ont changé un petit truc quand même, ils ont rajouté un petit tribunal pour qu'un citoyen européen puisse demander à la justice américaine « Est-ce que quelqu'un aurait accédé à mes données ?» Et en gros, c'est marqué dans la loi, hein, noir sur blanc, que ce tribunal ne peut répondre que « On ne sait pas, on ne peut pas vous dire, on a été vérifié, mais... »
Mais on peut demander.
On peut demander, mais voilà.
On ne peut pas avoir de réponse, mais on peut demander. Avant, on ne pouvait même pas demander.
Avant, on ne pouvait même pas demander.
Donc le DPF, le Data Privacy Framework... C'est encore un accord transatlantique entre l'Europe et les États-Unis.
Hein,
donc tout le monde s'est mis autour de la table en disant non, mais il faut qu'on puisse travailler ensemble. On va pas couper l'internet en deux parce que en fait, on aurait peut-être dû préciser, mais le risque à la fin, c'est ça, c'est de couper internet en deux.
Surtout de se retrouver avec les États-Unis.
Les câbles sous-marins entre l'Europe et les États-Unis, on n'a plus qu'à les revendre au prix du cuivre parce qu'ils servent plus à rien.
Et puis toutes les dépendances avec les entreprises en fait américaines, Microsoft, Google, Facebook, LinkedIn, enfin n'importe quelle boîte américaine, le matériel américain, parce que vos routeurs que vous avez dans les data centers, les Cisco et autres, c'est aussi des technologies américaines. Donc en gros, il y a 99% du numérique européen qui disparaît instantanément.
L'impact potentiel est énorme. Et en fait, quand je dis potentiel, c'est un abus de langage, puisque on n'est pas dans la potentialité là. Ça a été jugé par la CGUE.
Oui, mais tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout vraiment complètement. Les autorités de protection des données, en particulier en France, typiquement, ont refusé de sanctionner au moins les 3 ans, puisque pendant 3 ans, de 2020 à 2023, il n'y avait pas d'accord d'adéquation. Les entreprises continuaient à envoyer des données en Amérique. Et les autorités de protection des données prenaient les plaintes en disant « Oui, c'est pas grave, il y a la Commission européenne qui bosse un peu sur le sujet, donc on va attendre. » Et au bout de 3 ans, quand on a eu le DPF, ils ont tout clôturé en disant « Vous voyez, maintenant, il y a un accord d'adéquation. » Donc on a
qui est le même, sauf que maintenant, on a le droit de demander.
Voilà,
on ne peut pas avoir de réponse, mais on a le droit de demander. Et donc, est-ce qu'on peut s'attendre à un Schrems 3?
Alors, il faut s'attendre à un Schrems 3, parce que c'est là où ça devient vraiment n'importe quoi. Quand la Commission européenne a négocié les accords du DPF, elle a dû faire un peu de la consultation en fait, des autres autorités européennes. Donc, il y a plusieurs... en gros, c'est un peu comme notre Assemblée nationale, Parlement, etc. On demande l'accord et l'avis des différentes instances. Donc, elle a demandé l'avis à la Commission Libé, qui est une commission européenne qui est en charge justement des libertés et des protections individuelles. La Commission Libé lui a dit « Mais t'es malade, en fait. Ce truc-là, c'est juste repomper du DPF, enfin du Privacy Shield Safe Harbor, donc juste signe pas ça. On sait que c'est déjà, ça va pas tenir encore par la CGUE. Le Parlement européen est aussi consulté. Le Parlement européen voit la décision de l'IB et dit, bah, on est complètement d'accord. En fait, il vote même un texte officiel en disant, ne signez pas ce truc-là, c'est juste la même chose qui va vous attendre dans plusieurs années. Le Comité européen de la protection des données est aussi consulté et donne un avis extrêmement critique sur le sujet en disant, mais en fait, vous avez rien changé dans le texte, donc du coup, on voit pas pourquoi on pourrait aller sur ce sujet-là. SREM est du coup aussi consulté, et il a fondé depuis le temps une association qui s'appelle NoYubi. Donc il consulte NoYubi en disant...
NoYubi, comment t'écris ça?
N-O-Y-B. C'est not your own business. Donc c'est
none of your business.
None of your business. Donc c'est ce n'est pas.
T'as vu, je fais encore le candide, je fais semblant de pas savoir. En fait, je sais.
C'est ce n'est pas vos affaires en gros quoi. Et du coup en fait, NoYubi dit pareil. C'est le même texte. On comprend pas en fait pourquoi vous venez nous voir. Vous devriez être assez grand. Surtout que la CGE vous a bien dit d'arrêter votre bordel. Donc là, le truc est juste pas légal. Et nous, on voit les trois décisions. Donc ça, c'était l'été 2023. Et puis là, on voit la Commission européenne qui dit « Oh, ben, on a consulté tout le monde. Il n'y a personne qui est d'accord avec nous, mais nous, on a quand même signé le texte. » Et donc, le texte est en application depuis, de mémoire, c'est juillet 2023.
Donc là, en fait, on a le droit de stocker des données de citoyens européens aux États-Unis dans le cadre du DPF, du Data Privacy Framework, jusqu'à le prochain arrêt Schrems 3 qui probablement nous ramènera au point de départ et un jour supplémentaire, la marmotte, tout ça.
Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que même le RGPD avait déjà prévu le coup en fait, et c'est pas parce qu'il y a un accord d'adéquation que c'est un blanc-seing d'autorisation d'export de données. C'est déjà, l'accord d'adéquation n'est qu'une des, un des principes à
c'est
appliquer.
C'est nécessaire mais pas
c'est
suffisant.
C'est nécessaire mais pas suffisant, en particulier il faut aussi intérêt légitime, base légale, information, etc. Et la plupart du temps ce n'est pas respecté. Si on fait de la publicité ciblée, ça n'est pas, vous n'avez pas de base légale, vous avez plein de choses qui déconne, et donc du coup c'est pas parce qu'il y a un DPF que vous avez le droit de le faire. Il y a aussi, la CGUE a été très claire, c'est que les responsables de traitement ou les DPO doivent étudier l'accord d'adéquation et potentiellement se poser des questions aussi sur le sujet, en disant est-ce que c'est vraiment légal, est-ce qu'on n'est pas en train de juste fermer les yeux et de prendre un peu les gens pour des cons. Et
donc les non.
Pas du tout, les DPO et les responsables de traitement devraient aussi se poser des questions. Les autorités de protection des données ont même été averties aussi officiellement par les arrêts Schrem 2 en disant si vous êtes saisi de plainte sur le DPF, vous devez remettre en cause le DPF lui-même pour bien vous assurer que les exports de données sont légitimes ou pas. Donc en gros, c'est pas parce qu'il y a un DPF que les traitements devraient avoir lieu.
D'accord.
Mais effectivement, tout le monde ferme les yeux parce que les intérêts sont trop gros.
D'accord, mais il y a quand même un truc que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est que donc Max Schrems, qui est un citoyen autrichien d'une vingtaine d'années, tout seul vient mettre le grain de sable dans l'économie mondiale entre l'Europe et les États-Unis. Et aujourd'hui, il est tout seul. Enfin, il est tout seul à s'attaquer à ces problèmes-là.
Alors non, déjà, il est pas tout seul parce que justement après le Schrem 1, il avait monté NoYubi, donc c'était 2013 de mémoire. Donc il a une association maintenant où ils sont très efficaces sur ce genre de sujet. Donc il est.
Enfin,
porté...
c'est quand même lui derrière, quoi.
C'est lui derrière, mais qui a aussi passé la main, et donc du coup, il y a une vraie équipe qui s'est montée. En France aussi, il y a eu plusieurs tentatives de faire invalider le DPF. Donc il y a eu Philippe Latombe, qui est un député assez connu justement dans le monde du numérique, qui s'est dit.
De Vendée.
De Vendée, tout à fait. Qui s'est dit, en fait, il y a le DPF qui m'embête un peu. Il a profité, donc le Health Data Hub, qui est le gros centre de données de santé.
Ouais, dont on a beaucoup entendu parler en France.
Dont
ouais.
On a pas mal parlé, et en fait, qui a été confié à Microsoft. Et donc, du coup, lui, il a été voir le Conseil d'État français en disant, DPF, il y a un problème, en fait, il faudra peut-être l'invalider. Le Conseil d'État a malheureusement refusé le référé, donc ce qu'on appelle un référé, c'est-à-dire de décider en urgence, parce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas de risque, en fait. Il n'y avait pas de risque tout de suite, là, maintenant.
OK. Donc, en fait, dans le cadre du Health Data Hub qui disait « On va mettre toutes nos données de santé chez Microsoft, donc aux États-Unis », Philippe Latombe, donc député français, a saisi le Conseil d'État en disant « Stop, il faut arrêter tout de suite. »
C'est ça. en disant qu'il y a urgence.
Et il n'a pas eu gain de cause sur le tout de suite.
Voilà, il n'a pas eu gain de cause sur le tout de suite, donc il faudra
attendre la
suite.
Est-ce qu'il a eu gain de cause sur le plus tard ?
Bah, le plus tard, ce sera dans plusieurs années, hein, puisque les temps juridiques sont toujours des temps longs. Donc du coup, il faudra attendre. Donc son recours en référé n'est pas passé, mais il y a le recours tout court qui peut encore passer. Donc on attendra d'avoir la décision du Conseil d'État.
Ok, mais le temps long, par exemple, Max Schrems, c'était du référé ou c'était procédure normale ?
C'était de la procédure normale. Hein. La preuve, c'est que ça a pris plusieurs années. Je crois que c'était 2012-2015 pour Schrems 1 et 2016-2020 pour Schrems 2. Donc on parle plutôt en 4, 5, 6, 10 ans des fois pour ce genre de processus.
Okay. Concrètement, parce que on voit bien autour de nous que Outlook, que Gmail, Facebook, que tous les services US que tout le monde utilise, ils n'ont pas été coupés pendant ces périodes-là. Donc en fait, il y a une inertie, on a dit, des APD et puis des fournisseurs de services qui jouent aussi sur le fait que la justice prend son temps et que tout le monde se dit « non, on va attendre de voir ce que dit la justice ». Et quand la justice dit « non, mais en fait, c'est n'importe quoi », on dit « non, mais on va lui redemander pour être sûr ».
C'est ça, en changeant juste une virgule, c'est pas le même texte, on vous promet.
Et du coup, on remet une pièce dans la machine et c'est reparti pour 4-5 ans.
Mais c'est des processus qui sont malheureusement très connus, hein, puisque que ce soit Schrems 2, on a eu le même problème avec l'IAB, LTCF, où il y a 3, 4, 5 et 6 décisions d'APD, CGUE, on revient devant les APD, ça traîne énormément en longueur. On a aussi pas mal de boîtes en France qui sont connues pour faire ça. On a les APD qui sont pas non plus très actives, hein, puisqu'on a, par exemple, sur le DPF, il y a des autorités de protection des données, je pense à la Norvège de mémoire, Norvège, Finlande, surtout les pays comme ça du Nord, qui ont décidé, il y a le DPF, il n'est pas légal, donc j'interdis directement les traitements. EDPS, qui est la CNIL au niveau du Parlement européen, alors a interdit d'utiliser Microsoft Office 365. Il y a eu pas mal de décisions comme ça qui sont tombées.
Par exemple, en Norvège, ça veut dire que personne n'utilise Outlook ou Gmail ?
Après, c'est entre l'interdiction et l'application, il y a toujours un monde, mais ils ont quand même une APD qui vient taper, ils ont interdit. Dans la théorie, tu peux pas, il y a quand même eu des condamnations.
Dans la pratique, exemple. Tout le monde s'en fout.
Je ne sais pas dans d'autres pays comment ça marche, mais typiquement Cloudflare a été interdit, Mailchimp a été interdit, Microsoft 365 a été interdit. Ils ont dû faire des développements spécifiques pour avoir le droit de se déployer, je crois que c'était en Finlande. Enfin, il y a quand même des APD qui se bougent sur le sujet.
Si Cloudflare est interdit, t'as énormément de sites qui sont plus accessibles.
Ils ont dû changer, en fait. Ils ont dû changer de fournisseur, aller sur des trucs...
C'est des sites norvégiens, du coup.
Oui, ça doit être des sites norvégiens. Après, ça dépend vraiment pays par pays. Typiquement, en France, la CNIL ne fait absolument rien sur le sujet. La CNIL s'est déjà autocondamnée 3 fois pour avoir utilisé des systèmes américains en dehors de tout accord d'adéquation. Mais ça ne pose de problème à personne.
Ouais, c'est-à-dire que derrière, il y a le pragmatisme et la réalité économique de « il faut bien qu'on bosse », quoi.
C'est là où ça devient intéressant et qu'on peut faire un peu plus de la géopolitique plutôt que du RGPD pur et dur, c'est que Schrems 2 est un énorme argument pour interdire les États-Unis pour des raisons de protection de la vie privée, etc. Mais ce qui se cache aussi derrière aujourd'hui, c'est le problème de souveraineté en Europe. C'est qu'effectivement, on peut pas. Aujourd'hui, on peut difficilement se passer des États-Unis sur tout ce qui est numérique, etc. Mais c'est un vrai problème en dehors de la vie privée. Aujourd'hui, on a Trump qui est malheureusement arrivé au pouvoir la semaine dernière. On ne sait pas de quoi va être fait demain aux États-Unis. On a vu aussi, par exemple, quand il y a eu le rachat de Broadcom par VMware, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais en tout cas, les hausses de prix ont été flagrantes et les startups françaises sont arrivées en pleurs à la Commission européenne en disant « s'il vous plaît, sauvez-nous parce que là, ça va nous tuer ». Et on a un vrai, vrai problème d'indépendance et que demain, si les États-Unis se fâchent ou font n'importe quoi, ce qui risque d'être plutôt le cas vu les ministères qui sont en train de se monter aux États-Unis, ça peut devenir le grand n'importe quoi en Europe aussi.
C'est-à-dire qu'on a un problème de souveraineté et de souveraineté numérique, on en a déjà parlé. On a rapidement évoqué il y a 2 semaines comment est-ce que le logiciel libre pouvait être une piste d'émancipation par rapport à ça. Là, ce que tu es en train de dire, c'est que le RGPD, on peut en penser ce qu'on veut, mais le RGPD, c'est aussi un moyen politique de se protéger de l'hégémonie américaine.
Bah c'est ça, c'est que ça permettrait aussi de faire... Là, ça a permis, en tout cas, de faire prendre conscience au niveau juridique des problèmes de souveraineté que ça pose. Aujourd'hui, tout le monde s'arc-boute sur « bah oui, mais il faut continuer à faire le business, etc. » Et ça rejoint un peu le premier épisode qu'on dit aussi sur les vagues climatiques et les changements climatiques, etc. C'est que c'est pas qu'une question de RGPD. C'est vous allez avoir... vous prendre de plein fouet potentiellement un problème géopolitique.
C'est ce dont on parlait avec Benjamin Sontag.
C'est ça. C'est que bah là, avec Trump, on sait pas du tout ce qu'ils vont pouvoir faire. On a eu le problème avec la Russie aussi, où il a fallu se couper leur infrastructure en 2 semaines de temps, parce qu'il y avait des embargos et des décisions juridiques forts qui empêchaient tout usage de la Russie. On pourrait imaginer la même chose, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire soit Trump qui décide de faire du protectionnisme et que du coup tous les prix avec les Américains vont s'envoler et les entreprises européennes vont être pris à la gorge.
Le protectionnisme en général c'est dans l'autre sens, hein. C'est les taxes on les met à l'entrée pas à la sortie.
Bah oui, mais après ça pourrait marcher. Enfin, s'ils veulent, on ne sait pas en fait comment.
C'est-à-dire que s'ils mettent des taxes à la sortie, ils vont perdre des clients, ça va pas forcément faire leurs affaires. Mais globalement, on voit bien le principe que on est dans un monde
où c'est
mondialisé, où on dépend énormément les uns des autres et que tous les outils de souveraineté qui sont à notre disposition sont bons à prendre et que le RGPD en est un, en fait.
C'est ça, c'est un...
Le RGPD, il a bon dos, en fait.
Ça peut être une bonne excuse.
Vos données personnelles, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est se protéger, finalement.
C'est se protéger, c'est ça, et arriver à changer de... Et aujourd'hui, malgré Schrem 1, malgré Schrem 2, malgré certainement Schrem 3 qui se profile, personne ne réagit, c'est-à-dire qu'on ne monte pas d'infrastructures souveraines, alors que ce soit française, européenne ou dans d'autres pays plus respectueux, mais en tout cas on est extrêmement dépendant des Américains et le jour où on va devoir se fâcher avec eux, ça va être très compliqué. Et on a vu ce que ça a donné avec l'Allemagne et la Russie. L'Allemagne était très dépendante du gaz russe et a refusé du coup des sanctions russes et a fait vraiment de la géopolitique à cause de sa dépendance. Et on risque de se retrouver dans le même état avec le jour où il faudra se fâcher avec les États-Unis. Et s'il faut imposer des sanctions avec l'ONU ou d'autres, ça risque d'être compliqué.
C'est sûr que s'il faut interdire tous les GAFAM, puisque les GAFAM, ils sont tous américains, ça va être compliqué d'aller bosser le lundi matin.
Oui, mais après, on ne parle pas que des GAFAM, on parle aussi, ça a été soulevé par les analyses de risque des APD norvégiennes de mémoire. C'est vos routeurs. Vos routeurs, le matériel n'est pas fabriqué en Europe. Soit c'est chinois, soit c'est américain. On a très peu de routeurs européens. Les logiciels, la plupart des logiciels que vous utilisez, les infrastructures, même le développement du kernel Linux, du noyau Linux, en fait, aujourd'hui, repose énormément sur les contributions américaines, sur les financements américains. Même le Firefox, aujourd'hui, c'est le grand débat, c'est financé par du Google. Et donc, c'est des dépendances monstrueuses dans tous les écosystèmes. Et malheureusement, en Europe aujourd'hui, il n'y a aucune prise de conscience sur le sujet. Et malgré que Schrem 1 date déjà de 2015, on en est à plus de 10 ans, on n'a aucune initiative européenne pour prendre le relais en cas de problème.
En fait, ce qu'on comprend bien, c'est que ces arrêts Schrem 1 et Schrem 2, déjà, c'est des copier-coller, ils sont à l'identique. Et ils montrent surtout qu'on est tétanisé à l'idée de prendre des décisions qui permettraient de faire avancer les choses. Parce que là, concrètement, on gagne du temps, mais on ne prend aucune décision qui change la situation. On refait la même chose en espérant que le résultat soit différent, alors que, a priori, si on fait exactement la même chose dans les mêmes conditions, il va se passer exactement la même chose. Donc, au final, il faudrait quoi ? Il faudrait assouplir le RGPD pour avancer, parce qu'il y a un moment où on peut être... pour le RGPD, contre ou en avoir juste rien à faire. Mais on ne peut pas se dire qu'on va arrêter de bosser complètement et qu'on va couper Internet en deux. Donc si on veut vraiment avoir une attitude constructive, c'est quoi la solution ? C'est d'assouplir le RGPD ? C'est de le supprimer complètement ?
Pour moi, le RGPD est un texte...
C'est de dire aux Américains, remballez votre FISA 702 et puis trouvez autre chose.
En fait, le RGPD est relativement souple. C'est un texte qui est extrêmement adaptatif et vous pouvez le lire un peu dans tous les sens. Et je pense qu'il y a des portes ouvertes pour autoriser quand même les traitements vers les États-Unis. Aujourd'hui, ce qui bloque beaucoup, c'est par exemple la notion de proportionnalité et de probabilité qui n'existe pas en fait dans les exports internationaux. Autant si vous faites du franco-français ou du franco-européen, vous avez le droit de faire ce qu'on appelle des analyses de risque en disant « bon, il y a 0,01% de chance qu'une intrusion sur les données arrive par un système étranger. Donc, je ne vais pas en tenir compte parce que bon, c'est très peu probable.
J'ai mesuré mon risque.
Je vais mesurer mon risque, alors que ce système n'est pas du tout possible avec les Américains. Et si on prend l'exemple du Health Data Hub, la probabilité qu'il y ait une agence de renseignement américaine, surtout par des processus légaux, parce que rappelons-le que ce n'est pas le Far West de leur côté, c'est encadré par un juge, c'est juste que nous, en tant qu'Européens, on n'a pas le droit d'avoir accès à la procédure. Mais qu'un juge américain ait décidé d'aller extraire des données d'un Européen par le Health Data Hub, il est, sans me tromper, je pense dire que le risque est nul. Puisque même Amazon, de toute façon, ou Microsoft, ne connaîtra pas où sont stockées les données sous les formats que ça a. Et donc, ils n'iront pas faire des saisies. Donnez-moi les 200 terras qui sont sur le Health Data Hub.
Toi, ce que tu dis, c'est que le Health Data Hub, c'est les données de santé de tous les Français. Ça va se retrouver sur des disques durs de Microsoft parmi des milliers de téraoctets de données, sous des formats qui sont connus a priori que par, que par la France.
Oui.
Et que pour qu'un juge se dise « Ah tiens, je vais ordonner qu'on aille extraire des données dans ce fatras-là pour en faire… »
On sait pas quoi.
On sait pas quoi. En fait non, ça c'est de la science-fiction paranoïaque, mais ça n'arrivera pas.
C'est ça, ça n'arrivera
pas. Donc le risque, il est nul ou quasi nul. Et du coup, toi, ce que tu dis, c'est que ça sert à rien de l'interdire.
Bah c'est ça, n'interdisons pas, encadrons plutôt.
Mais il faut l'encadrer.
C'est encadrons, faisons pas n'importe quoi quand même. Effectivement, ça empêche pas de mettre du chiffrement là où on peut pour empêcher les accès, là où on peut vraiment les empêcher, vraiment rendre le truc réellement nul. Ça empêche pas d'avoir des bons contrats avec Amazon sur le sujet. Ça empêche pas d'essayer de faire changer FISA 702 en disant, on aimerait quand même avoir des droits d'accès côté américain.
Au moins d'avoir le droit de poser la question.
Voilà,
quoi.
Au moins d'avoir, et d'avoir la réponse.
Ah, mais comme t'y vas, là.
Et voilà, je pense qu'il y a moyen, le RGPD est suffisamment flexible pour pouvoir aller dans ce genre de réflexion. Et de l'autre côté, c'est aussi bâtissons notre infrastructure européenne, ne dépendons plus des Américains. Mettons de l'argent sur la table, faisons des appels d'offres. Les Américains fonctionnent énormément par la commande publique pour faire leur infrastructure. Faisons pareil en Europe et montons des data centers, des fournisseurs de services pour faire concurrence avec les Américains et ne plus avoir la dépendance à terme avec eux directement.
Ouais, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les États-Unis, sûrement le plus grand pays capitaliste du monde, en fait, toutes les avancées majeures, elles ont été financées par le public.
Oui, c'est ça. La plupart, c'est même le département de militaire américain qui finance la plus grosse partie.
Et qu'en France, le financement public, il est tout petit comparé à ce qu'il y a aux États-Unis et que c'est pas étonnant qu'ils aient des infrastructures démesurées là où nous, on galère un petit peu.
Voilà, mais du coup, je pense qu'il y a les deux côtés à jouer. En fait, le RGPD est suffisamment flexible pour qu'on puisse avancer là-dessus et arriver à faire des exports vers les États-Unis. Rappelons aussi, et ça, je l'ai déjà souligné aussi pas mal de fois en ligne, c'est qu'on est en train de reprocher aux Américains de faire des choses que nous, on fait très bien notre propre population. Typiquement, moi, j'ai eu le cas...
Non, ça, je peux pas te croire.
Moi, j'ai eu le cas, je l'ai vécu, que des agents de renseignement français ont débarqué dans un data center, sont repartis avec mes données, saisis des disques durs sous le bras, et quand on demande l'accès au dossier, on vous répond que non, vous n'aurez pas accès au dossier. Donc, droit de la défense complètement bafoué, aucun accès à la procédure, pas le droit de se défendre devant un juge, le juge qui refuse tout accès au dossier. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on autorise en France des choses qu'on interdit aux États-Unis ?
Donc ce que tu dis, c'est la pouille, la
paille et la poutre.
Ce que tu dis, c'est la paille dans son œil, la poutre dans celle du voisin ou le contraire. FISA 702, ça permet à un juge américain d'aller extraire des données et nous... Européens, on ne le sait pas, on n'a pas accès à la procédure et on comprend que ce soit un tantinet irritant, voire scandaleux. Mais en fait, en France, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'en France, suite aux lois antiterroristes,
c'est même complètement illégal. Hein. On n'est même plus dans un cadre juridique encadré, etc. C'est des juges qui se réveillent un matin, qui signent des demandes de réquisition qui sont juste lunaires, qui font aucun contrôle de ce qu'ils signent.
Et donc ça, c'est une anomalie.
C'est une anomalie, mais pour le coup, ça existe réellement en France et c'est presque entériné par les décisions de gouvernement, etc. qui ne font pas grand-chose pour encadrer ça. On pense aussi aux écoutes illégales, ou en tout cas très peu encadrées.
Oui, mais si c'est illégal, c'est une anomalie. C'est illégal.
Oui,
mais là, après, quand on parle de FISA 702, on parle d'un cadre légal.
Oui, mais on pourrait parler aussi de la CNCTR en France, qui est la Commission nationale des contrôles de... Ouais. Enfin, on pourrait parler aussi de la CNCTR en France, qui est un organisme qui est chargé, en théorie, d'encadrer les écoutes téléphoniques et autres à la demande de notes blanches du gouvernement, mais qui, bah, si on leur pose la question, ne peut que répondre ça existe ou ça n'existe pas. Voilà, c'est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Et si vous leur posez la question « Est-ce que j'ai été surveillé ?», bah, la seule chose qu'ils peuvent vous répondre, c'est « On ne sait pas ou on ne peut pas vous répondre. » Et vous n'aurez jamais la réponse. Pareil, j'ai fait des demandes d'accès pour avoir mes dossiers de renseignement, etc. On te répond « Bah non, un agent de la CNIL a été voir, mais on ne peut pas vous répondre si quelqu'un est concerné ou pas. » Donc, on a à peu près les mêmes problèmes en France.
Et donc, encore une fois, le RGPD, il a bon dos. On a beau être protégé, ben dans la pratique, il y a des abus ou on ne l'est pas. Et mettre en péril ou en tout cas s'attaquer à l'Internet mondial pour ce prétexte-là, ça te semble un petit peu fallacieux.
Bah, c'est fallacieux, mais en même temps, c'est intéressant puisque ça soulève le problème de la souveraineté. C'est-à-dire que le problème de la vie privée, pour moi, est un vrai faux problème ou un faux vrai problème, fonction dans quel sens on le regarde. Et je pense qu'on pourrait avoir des postures un peu moins violentes sur le sujet. Mais en agissant quand même beaucoup et de constater que les GAFAM, typiquement les usages qu'ils font des données, est lamentable et devrait être condamné et devrait être interdite beaucoup plus violemment. Les technologies souveraines en Europe devraient être construites et il y a vraiment un entre-deux à trouver et des évolutions à faire des deux côtés. Et aujourd'hui, on est dans un blocage complet. C'est que
une espèce de marasme.
On est dans un marasme et que ça avance ni dans un sujet ni dans l'autre. Quoi.
Alors, on peut dire que finalement, le RGPD, c'est un peu le poil à gratter qui nous oblige à nous réveiller. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, c'est s'il n'y avait pas eu le RGPD et s'il n'y avait pas eu Max Schrems, on serait toujours au Safe Harbor et puis ça serait open bar, quoi.
Bah, ça serait open bar.
Ça serait open bar. Et puis, en termes de souveraineté numérique, on se poserait à peine la question. Donc, ça a quand même la vertu de nous obliger à nous mettre face à nos responsabilités et à nous poser les bonnes questions et à remettre un peu en cause ce qui paraît plus confortable, quoi.
Oui, bah, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est ça. C'est le confort, en fait, et le business, malheureusement. C'est ça qui est le nerf de la guerre aujourd'hui. Mais le business ne veut pas se remettre en cause parce que les décisions à prendre, qui sont pourtant évidentes, ne veulent pas être prises pour des raisons marketing, économiques, voire même sociales, puisqu'on est d'accord que si jamais on devait se passer des États-Unis demain, ça risquerait de piquer un petit peu en termes d'emploi et autres en Europe. Donc il ne faut pas se cacher, mais comme on disait avec Benjamin Sontag, malheureusement, ça ne va pas être le seul problème qu'on va avoir à résoudre d'ici 10 ans. Et la plupart des décisions qu'on va avoir à prendre, contraintes et forcées pour le coup, parce qu'on discute beaucoup moins avec l'écologie qu'avec le gouvernement américain, de toute façon, ça va être des décisions qu'il faudra prendre à terme.
On a eu quelques exemples, en particulier en Espagne, de ce que c'est que l'écologie punitive quand on n'a rien foutu.
Voilà. Et aujourd'hui, ça va être là le vrai sujet, plus que le RGPD, ça va être la prise de conscience à avoir, comment on se réorganise notre société, comment on monte nos business autour de ça, comment on se prend en main, en fait, pour régler les problèmes. Et ça passe aussi par des profondes restructurations sociétales sur comment on vit avec un boulot ou pas de boulot. Et donc, ça soulève plein d'autres questions derrière que Schrems, pour le coup, ne réglera pas tout seul devant la CGE.
Ouais, et donc tout ça, à la base, c'est parce que un Autrichien de 25 ans en avait marre de la pub Facebook.
Oui, ça part de loin. Hein, et ça donne aussi les implications du RGPD en général. Hein, c'est un texte qui est extrêmement vaste, extrêmement touffu, en même temps très compact, hein, mais qui touche à vraiment tous les domaines de la société.
Tu peux le dire, tu le trouves beau.
Ah ben, je le trouve vraiment beau et c'est vrai qu'on a des décisions qui sont prises, même par la CGE elle-même, on ne s'attendait pas à ça. En fait, on ne s'attend pas à ce que le RGPD, qui est un texte, surtout en France, issu depuis 1978, règle des problèmes de publicité ciblée en ligne, de réseau social, de transidentité, de surveillance dans la voie publique. C'est vraiment un texte qui couvre un domaine extrêmement vaste. Et que si on l'applique, en fait, ça revient à dire soyez juste pas un connard, comportez-vous en humain correctement, qui se comporte correctement en société, et tout ira bien. Le RGPD devient naturel dans des cas comme ça.
Eh ben, merci à Iris, je pense qu'on a fait le tour.
Je pense aussi.
Bon, ben voilà, c'était l'histoire du petit Max Schrems qui en a marre de la publicité Facebook. Vous avez écouté le 7e épisode de RDGP, le podcast sérieux qui vous emmène au cœur des enjeux des droits numériques, des libertés individuelles et de la vie privée. N'oubliez pas que vous pouvez écouter cet épisode sur les plateformes de podcast 2.0. Vous retrouverez toutes les applications de podcast 2.0 sur newpodcastapps.com. Ce podcast est hébergé par Castopod, plateforme open source, libre et gratuite d'hébergement de podcasts. Le podcast est disponible sur Mastodon. Vous pouvez interagir directement depuis Mastodon en repartageant l'épisode, en le likant ou en le commentant. Et n'hésitez surtout pas à nous envoyer toutes vos questions. Merci à Eris.
Merci Benjamin.
Et à la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous.